tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Le mouvement, c'est la vie. La sédentarité chronique, c'est la mort à petit feu. Et pour soulager vos douleurs musculaires et squelettiques, bouger reste l'une des bases fondamentales. Tout au long de la journée, se remuer en marchant, en nageant, en courant, en faisant du vélo, en s'étirant régulièrement, en s'activant chez soi, en jardinant, en réalisant des exercices de gymnastique, en enchaînant des postures de yoga ou de tai chi. Et si on a du mal à bouger pour des raisons médicales, se tourner vers l'activité physique adaptée. Nos experts vous conseillent ce matin de bouger pour soulager les petits et gros bobos du quotidien, soulager vos douleurs bénignes ou invalidantes le plus simplement possible. Vous verrez que notre corps détient la fabuleuse capacité de se renforcer en permanence. Si vous souffrez de douleurs au cervical, de torticolis, d'épaule raidie, de lumbago, d'arthrose du genou ou de la hanche, d'un faux mouvement, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Notre médecin et romancier. Alors encore une fois, votre chronique de lundi dernier a suscité de nombreux commentaires positifs. Quel est donc le menu cette semaine ?
Aujourd'hui, on va parler des limites et des dangers des discours sur l'immunité naturelle, Aline.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Ali Rébéi. Grand Bien vous fasse. Le mouvement caractérise la vie. Lorsque les différentes parties de notre corps entrent en interaction, elles forment une chaîne cinétique. Parfois, nous effectuons des mouvements conscients, comme tendre le bras, courir ou danser. Mais ils peuvent aussi être inconscients. Un muscle qui se contracte sous l'effet d'une tension ou le simple fait de respirer. Si notre mobilité est entravée, ne serait-ce que localement, tout le corps se trouve déséquilibré. Et les mauvaises postures qui en résultent peuvent occasionner des douleurs.
Extrait du documentaire Ostéopathie, les mains à l'écoute. Bonjour professeur Martine Duclos, bienvenue.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue, physiologiste et médecin du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans cette émission. Bonjour Nicolas Tikhomirov, bienvenue.
Bonjour Ali.
Alias Monsieur Clavicule sur les réseaux sociaux. Vous êtes kinésithérapeute et ostéopathe. Vous vulgarisez la santé avec votre compte Monsieur Clavicule sur YouTube et sur Instagram. Et vous publiez chez Albin Michel, Bien dans son corps, soulager vos douleurs par le mouvement. Bonjour Olivia Ferrand.
Bonjour Ali, merci de me recevoir.
Ostéopathe et vous publiez chez Flammarion avec le kiné Antoine Couli. Tiens-toi droit, 50 idées reçues, enfin démystifiées. Alors, vos deux livres sont très complémentaires avec un point commun, le mouvement et la lutte contre la sédentarité. Nicolas Tikhomirov, le mouvement c'est la vie. Hein. Et je cite juste avant le bon vieux Schopenhauer qui nous dit « Toute chose vivante ou pas, organique ou inerte, s'efforce de persister dans son être et de se conserver elle-même, de durer, de réagir à ce qu'elle subit et d'agir sur ce qui l'entoure. Le mouvement, c'est la vie. »
Le mouvement, c'est la vie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a ce médicament naturel qui est extraordinaire, qui est le mouvement. Et on s'en est privé pendant des décennies, hein, en pensant qu'il fallait rester au repos quand on avait une douleur. Et c'est ce qu'on explique dans nos livres avec Olivia, qu'il faut vraiment bouger et c'est la meilleure façon de calmer, de soulager nos douleurs.
Olivia Ferrand.
Effectivement, on a un peu construit tout un grand méchant loup autour de la douleur, du mal de dos et le but des livres, c'était aussi de faire comprendre que peut-être que le loup, il n'est pas si grand et il n'est pas si méchant en fait.
Professeur Martine Duclos, la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle pour parler comme les hebdomadaires des années 80 à propos du mal de dos.
Oui, et puis je crois que la principale cause du mal de dos, c'est l'excès de temps passé assis, parce que quand on regarde la posture que l'on a quand on est assis, on a les jambes croisées, ce qui est déjà pas une bonne chose, ensuite on est voûté, on a le cou qui a une position courbée, enfin tout ça est l'inverse de la position naturelle, et souvent ça la conduit effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des contractures des muscles du cou et du haut des épaules qu'on appelle les trapèzes, ça plaira à Monsieur Clavicule, enfin les muscles qui sont autour des clavicules, et donc en fait eh bien tout ça retentit sur le reste du corps et ça se traduit souvent par des douleurs lombaires, Et parfois, effectivement, pour relâcher les douleurs du dos, il faut déjà aller décontracter les épaules, donc avoir une bonne posture. Et puis, il faut commencer, effectivement, par se lever, par bouger, par s'échauffer déjà le matin avant de se mettre devant son poste de travail. Et puis, effectivement, par muscler. Alors, les gens pensent qu'il faut faire muscler uniquement le dos, mais le dos, c'est comme si on imaginait qu'un être humain, c'est qu'un dos. Ben non, c'est un dos. Et puis, c'est aussi les abdominaux, c'est-à-dire c'est devant, derrière. Hein. On a un face et un profil, un côté face et profil. Et voilà, c'est tout un haubanage. Voilà, donc il faut muscler l'ensemble de l'organisme. Et des muscles, c'est pareil, voilà, c'est pas inerte, il faut les faire bouger. Si on les fait pas bouger, c'est comme une plante qu'on n'arrose pas, ça se flétrit, ça se raidit et ça casse, quoi. Donc
Olivia,
ça fait mal.
Olivia Ferrand.
Oui, alors effectivement, le mouvement va être très important. Ce qu'on a pu remarquer dans les études qu'on a épluchées pour rédiger le livre, c'est que on a peut-être une position un petit peu plus nuancée sur la posture, justement. C'est pour ça qu'on l'a mis en titre du livre, Tiens-toi droit. Vraisemblablement, ce serait très peu corrélé à la douleur. Ce qui est important, c'est de se sentir confortable. Et donc là où je rejoins Martine, c'est que c'est important en fait d'imposer des breaks dans les longues périodes de sédentarité. Avoir un travail assis, c'est pas une fatalité, mais il faut être en mesure de pouvoir breaker régulièrement.
Breaker,
ouais.
S'arrêter.
Ouais.
Nicolas Ticomiro.
Absolument. Il faut, quand on est devant son poste de travail, bah, toutes les heures prendre, même mettre une petite alarme, c'est ça peut être intéressant, et varier sa position, changer de posture. C'est ça en fait. Il faut se dire que il y a pas de bonne, mauvaise posture. La bonne, c'est la suivante. Donc, peut-être installer des cartons pour travailler un peu debout, un coup de fil, un petit peu marcher, faire deux, trois petits mouvements, des flexions. Voilà, toutes les heures, essayer de varier les postures. C'est ça qui est essentiel.
Professeur Martine Duclos, par quel mécanisme la sédentarité est-elle délétère pour notre santé, hein, de façon très globale? Et pourquoi cette sédentarité renforce les douleurs physiques type lumbago ou douleur au cervical? Expliquez-nous le mécanisme.
Alors, les mécanismes de la sédentarité, c'est-à-dire de l'excès de temps passé assis, la sédentarité étant différente de l'insuffisance d'activité physique, la sédentarité, c'est tout simplement parce que quand vous êtes assis, eh bien, en fait, vos artères ne sont pas soumises à une pression suffisante. En fait, dans les mécanismes de fonctionnement de l'organisme, tout répond à une courbe en U, c'est-à-dire qu'il en faut toujours ni trop peu, ni trop. En fait, on doit toujours se trouver dans un bon équilibre. Dès qu'on en fait trop, on peut se trouver avec les conséquences d'un excès. En cas d'activité physique, c'est pas le problème. Mais quand on n'a pas assez non plus de pression dans les artères, eh bien, ces artères qui sont des êtres extrêmement vivants, en fait, qui se contractent, qui se dilatent en fonction des besoins en oxygène de l'organisme, eh bien, elles sont pas du tout stimulées. Elles produisent pas de leurs neuromédiateurs qui permettent, en fait, de rendre ces artères très réactives et en particulier de lutter contre l'hypercoagulation. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Vos artères, quand elles sont pas stimulées, donc quand elles sont au repos, donc en fait, elles sont pas du tout stimulées par l'activité contractile de vos muscles, eh bien, il y a pas assez de flux dans vos artères. Et je parle des artères et pas des veines, hein. Et donc, elles se ramollissent, elles ne sécrètent pas assez. C'est du monoxyde d'azote. Vous voyez que nos artères, elles produisent aussi des gaz. Et donc, il y a un état d'hypercoagulabilité et qui favorise sur le long terme. Alors, le problème, c'est qu'on fait pas ça pendant une heure. On fait ça, on passe en moyenne 12 heures assis par jour pour la population moyenne, entre 8 à 12 heures. Et tous les jours et toutes les semaines et pendant des mois et des années. Et ceci favorise fait le lit des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, comme le diabète. Et ceci va conduire aux maladies chroniques. Ça favorise aussi l'inflammation chronique qui lui-même peut favoriser le cancer. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que dès que vous faites travailler vos muscles de façon aiguë ou de façon chronique, c'est-à-dire l'aiguë, c'est une petite session d'exercice, ou le chronique, c'est le fait de faire régulièrement de l'exercice, on sait que la sensibilité à la douleur diminue. Ça, c'est des choses qui sont très très bien démontrées. Par exemple, chez les douloureux chroniques, on dit vraiment que l'activité physique fait partie de la prise en charge à part entière chez ces patients qui ont des douleurs chroniques. Typiquement, c'est les gens qui ont des fibromyalgies ou qui ont des douleurs chroniques par atteinte des nerfs. On les met à l'activité physique, alors pas n'importe comment, c'est de l'activité physique adaptée, parce qu'on sait que cette activité physique va diminuer la sensibilité à la douleur. Alors c'est des effets directs sur les nerfs, mais c'est des effets au niveau aussi d'un système nerveux central, où on va un peu désensibiliser tous les systèmes qui sont impliqués dans la sensibilité à la douleur. On va diminuer le nombre de récepteurs, on va diminuer aussi, désactiver un petit peu le système neuronal qui est impliqué dans la douleur. Donc c'est vraiment, comme d'habitude, dans le cas de l'activité physique, un effet multicible.
Et c'est très clair, Martine Duclos, pour bien comprendre les effets délétères de la sédentarité. Et Nicolas Tikhomirov, Olivia Ferrand, c'est vraiment l'objet de votre livre, hein, ce que vient de nous dire le professeur Duclos.
Absolument, on peut même aller plus loin en disant que l'activité physique va stimuler au niveau chimique, au niveau certaines hormones antidouleurs comme la dopamine, les opioïdes. Et puis, il faut aussi penser au côté psychologique, où on va avoir vraiment une sensation d'auto-efficacité, on se sent plus robuste, on a l'impression de vraiment contrôler sa douleur, ça diminue tout ce qui est stress, anxiété, on dort mieux, on sait à quel point le sommeil, ça a un impact aussi, ça sensibilise à la douleur, donc ça a tellement de vertus qu'il faut vraiment mettre en place.
Le problème, c'est que la crise sanitaire a accentué la sédentarité des Français. Peut-être pas lors du premier confinement, mais depuis, enfin tout au long de l'année 2021, on a vu que les Français étaient beaucoup plus sédentaires, Olivia Ferrand.
Effectivement, on l'entend beaucoup en consultation, des patients qui viennent pour dire qu'ils sont en télétravail, qu'ils sont moins bien assis, moins confortables, qu'il n'y a pas les trajets, que c'est plus compliqué pour eux. Ils ont plus de mal à gérer cette situation qui est inconfortable pour eux. Et du coup, ils viennent pour qu'on essaie de trouver des solutions justement pour remédier à tout ça.
Tiens, une question de notre camarade chroniqueuse Guillemette Odissino qui me disait la semaine dernière, la manière de mal se tenir avec le télétravail n'a-t-elle pas provoqué une augmentation des capsulites et autres lumbagos, Nicolas Tikhomirov?
J'ai pas eu, moi, à mon cabinet, j'ai pas eu
Vous avez pas eu ça?
Non, j'ai pas eu ça, mais c'est vrai que bon, quand on est en télétravail, il faut surtout arriver, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas de posture idéale, il faut arriver à trouver la position la plus confortable pour soi, en fait. C'est vraiment à soi de trouver son réglage.
Olivia Ferrand ?
Effectivement, je n'ai pas remarqué non plus parce que, de toute façon, c'était le type de population qui fréquentait mon cabinet avant et ça n'a pas changé, du coup. Et pour rejoindre ce que disait Martine aussi, effectivement, d'avoir des grandes périodes de sédentarité, ça peut causer ce qu'on appelle, du coup, des syndromes métaboliques et donc des troubles cardiovasculaires. Et ce serait vraisemblablement plus intéressant, plutôt que de se dire « je fais une heure de sport le week-end et je donne tout ce que j'ai le week-end », de faire justement ces petites pauses, comme disait Nicolas aussi, de mettre un réveil, etc. Juste 2 minutes, ça suffit plusieurs fois par jour. Et ça, ça va permettre aussi à gérer un peu la situation.
Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi, Olivia. Très bien.
Alors restez avec nous. Dans quelques instants, vous verrez comment soigner un lumbago, une douleur cervicale grâce à l'activité physique et sportive. Ce sera juste après David Bowie. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Ch-ch-ch-ch-changes.
Turn and face the strain.
Ch-ch-changes. Don't wanna be a richer man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They
quite aware what they're going through. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Where's the shame you've left us up to her neck?
David Bowie interprétait Changes.
Oh putain!
Qu'est-ce qui t'arrive?
Oh.
Grand bien vous fasse.
Il y a peut-être quelque chose de cassé.
Ali Rebéi.
Qu'est-ce que vous faites? J'appelle un kiné. C'est pas la peine. C'est un copain à moi, il est formidable. C'est le meilleur kiné de Courbevoie.
Sur France Inter.
10h22, comment le mouvement peut aider à lutter contre les douleurs comme un torticolis, une sciatique ou un lumbago? Nos experts ostéo, kiné et médecins du sport répondent à vos questions au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule, pourquoi faut-il faire du sport en cas de blessure? Pourquoi faut-il faire une activité de transfert même blessé?
En fait, ça,
expliquez-nous un petit peu.
Ça a de nombreuses...
Alors l'activité de remplacement, c'est un sport qui
ne va pas mettre en contrainte en fait la zone qui est blessée. En fait, l'idée c'est de continuer quand même à faire du sport. Ça a beaucoup de vertus au niveau du maintien du métabolisme, au niveau psychologique. Même on se sent encore en activité, en action. Donc c'est très important de faire cette activité de transfert.
Par exemple, si j'ai mal au dos.
Ben, par exemple, si vous avez mal au dos, peut-être que ça vous empêche pas d'aller faire un petit peu de vélo ou un petit peu de natation. Un sport qui vous plaît, c'est ça qui est quand même, la notion de plaisir est importante, et un sport qui ne vous fait pas mal. Donc il faut se faire conseiller par son thérapeute, par exemple, et trouver quelque chose qui peut vous faire du bien.
Pendant longtemps, les professionnels de santé recommandaient de ne pas bouger en cas de lumbago, de sciatique.
Et c'était ça le gros problème. Ouais,
et aujourd'hui, l'assurance maladie, le slogan de l'assurance maladie, c'est mal de dos, le bon traitement. C'est le mouvement. Comment on en est arrivé à ce changement de paradigme?
Ben, on a eu aussi beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que vraiment l'intérêt, il était de bouger progressivement, mais le plus rapidement possible. Et de se faire évidemment accompagner par un professionnel de santé. Donc c'est la science qui nous a montré ça.
Olivia Ferrand, je rappelle que vous êtes ostéopathe.
Effectivement, on conseillait énormément de ne pas bouger. Et probablement que ça a été très lié aussi au fait que... on avait beaucoup moins de connaissances que ce qu'on a aujourd'hui et on pensait que, par exemple, avoir une hernie discale, ça faisait forcément mal ou c'était grave et c'était forcément amené à s'empirer dans le temps, ou alors que si on avait mal, c'est parce qu'il y avait forcément quelque chose, un truc qui allait pas, etc. Et vis-à-vis un peu de ces croyances et du coup de la peur que ça engendrait, par principe de précaution, on s'est beaucoup dit, je vais rien faire pour que ça passe. Et maintenant qu'on a un petit peu dépoussiéré tout ça, au final, effectivement, même une activité physique qui va pas solliciter la région douloureuse, ça sécrète de toute façon des molécules antidouleurs qui viennent moduler la douleur au niveau de tout l'organisme, et donc ça va pouvoir soulager même si ça ne sollicite pas cette région-là.
Et nous accueillons Julien. Bienvenue Julien.
Oui, bonjour.
Quel est votre témoignage, Julien?
Alors moi, je vais vous témoigner de quelque chose. Oui, j'ai très envie de, ou plutôt j'envie nos ancêtres, car apparemment en 1950, ils faisaient 7 km par jour de moyenne. Et apparemment, personne n'était malade, vraiment. Ils n'avaient pas des douleurs articulaires, ou bien j'aimerais bien savoir...
Si ça pouvait arriver tout de même.
Ça pouvait arriver, oui, voilà. Bon, sûrement qu'ils avaient d'autres maladies. Ouais. Mais moi, je vois personnellement que dès que je suis assis, comme maintenant, là, en vous téléphonant, j'ai des petites fourmis qui grimpent dans les membres. Et j'ai besoin de bouger, voilà.
Et quand vous êtes trop longtemps assis, trop longtemps sédentaire, vous avez des douleurs au dos, des...
Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et même si, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'étais en formation, et les cours étaient franchement intéressants, fantastiques, mais bon, au bout d'une heure, moi, il fallait que j'aille faire mon tour. Et l'intellectuel, plutôt, ouais, j'arrivais plus à écouter.
Pourquoi Julien a mal au dos quand il est assis trop longtemps? Enfin, comment ça s'explique, Nicolas Tikhomirov? Je rappelle que vous êtes ostéo et kiné.
Ben en fait, Julien, peut-être qu'il a, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ça. Hein. On le sait, beaucoup de facteurs vont en fait influencer la douleur, le stress, le manque de sommeil, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aussi le fait de rester dans cette position. Au bout d'un moment, ça va commencer à tirer au niveau de ses muscles. Il y a beaucoup de phénomènes qui se mettent en route, et c'est pour ça que c'est à ce moment-là, c'est une sorte de signal d'alarme qui nous dit bon ben ok, maintenant il faut que je bouge. Voilà.
Olivia Ferrand, qu'est-ce que vous lui conseillez justement pour ne plus éprouver ces douleurs au dos quand il est assis un peu trop longtemps?
Alors, effectivement, bon, l'activité physique de manière générale dans la semaine quand ça lui plaît. Et une solution pour remédier à ça, ça peut être de changer l'assise, soit de trouver un fauteuil qui est plus confortable pour lui. Ou alors, sinon, ce qui se fait pas mal aussi, ça va être, vous savez, les gros ballons de sport. Au final, vu que c'est pas des assises stables, entre guillemets, on est toujours un peu en train de bouger dessus. Ou sinon, il y a des chaises aussi qui se font où on est toujours un petit peu en train d'adapter la position. Et donc, du coup, on bouge régulièrement et c'est plus confortable pour les patients.
Ouais, le Swiss ball, c'est une bonne idée d'être assis.
C'est ce gros ballon.
Le gros ballon exactement. Où, en fait, on est tout le temps en mouvement, comme le dit Olivia, et c'est super intéressant.
Eh bien, Julien, nous vous proposons d'investir dans un Swiss ball pour aller un peu mieux.
C'est bientôt mon anniversaire. Donc...
Écoutez, tous les auditeurs de France Inter vont se cotiser pour vous offrir un Swiss ball. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Bonjour Monique, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que j'ai le droit de donner votre âge?
Oui, bon, parce que c'est un renseignement important pour la situation.
Vous avez 83 ans. Voilà.
Oui.
Alors, racontez-nous un petit peu, comment vous luttez contre les douleurs?
Alors, je fais beaucoup d'activités. Ma première activité qui m'apporte beaucoup de plaisir, c'est le jardinage. Qui vous met tout en œuvre, hein, parce que c'est penché, enfin bon, c'est beaucoup de travail du corps. Et je marche tous les jours, trois quarts d'heure, une heure. Je fais un peu de natation, surtout quand il fait plus beau. Et je fais du vélo aussi. Et donc, voilà, je bouge beaucoup parce que j'en ai besoin.
Et vous nous avez dit au standard que vous avez souffert, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une sciatique, c'est ça?
Voilà. Alors, bon, justement, peut-être parce que j'avais trop jardiné, enfin, j'avais jardiné, mais je sais pas m'arrêter quand je travaille, ça me plaît, et je fais des positions prolongées qui sont pas très correctes, disons, il faudrait que je varie plus, mais maintenant je le fais. Hein. Donc, j'ai récupéré une douleur qui a été très invalidante parce que je pouvais plus me redresser, j'étais obligée d'être pliée presque en deux pour pouvoir bouger. Alors, je pouvais plus rien faire. Donc, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Ah, c'est une sciatique, vous en avez au moins pour 4 ou 6 mois. » Bon, je suis sortie, j'étais désespérée. Alors, il m'a donné des calmants, dont un calmant à base d'opium, parce qu'il fallait que je me redresse au moins. Et bon, ça a été efficace, ça a enlevé la douleur, ça a provoqué d'autres choses, mais je l'ai pris 8 jours. Et après ces 8 jours, j'ai pu aller voir un kiné, un centre de kiné, qui a une piscine d'ailleurs, et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a tout de suite pris en charge, et il a regardé mon scanner, là, parce que j'avais le scanner qui montrait que j'avais un petit émiettement d'une lombaire, mais bon, il a pas trop insisté, et donc il a commencé des soins tout de suite, sans me dire ce qu'il y avait. Et il m'a fait de l'électrostimulation, avec en plus une compresse glacée au niveau de la partie supérieure de la fesse, sur la hanche. Et au bout de 6 séances, ma douleur avait complètement disparu.
Ah, tant mieux, tant mieux. Mais Nicolas Tikhomirov, comment est-ce qu'on peut prévenir une sciatique ? Expliquez peut-être en quelques mots ce qu'est une sciatique. Et dans le cas de Monique, qui adore bouger, qui adore jardiner, comment on peut prévenir ce type de douleur ? Est-ce que vous avez des conseils fondamentaux pour Monique à l'avenir,
pour qu'elle ait... Pour prévenir, on peut pas prévenir la survenue de ça.
C'est quoi compliqué. Une sciatique exactement ?
Une sciatique, en fait, c'est une irritation au niveau du nerf sciatique qui part, en fait, au niveau de la dernière vertèbre lombaire L5-S1, en fait, entre lombaire et sacrum, et qui va cheminer dans tout le membre inférieur, en fait. C'est vraiment un nerf très important. Et donc, il peut y avoir plein de causes, hein, voilà. Donc, du coup, de prévenir, je pense que ce que fait Monique, c'est-à-dire de bouger, c'est le plus important. Ensuite, c'est d'arriver à voir sa limite un petit peu. Là, chacun, on a une capacité d'adaptation maximale. Si on franchit cette ligne rouge, on va déclencher certaines douleurs. Donc, il faut arriver à voir des fois de pas trop en faire et d'avoir cette activité assez régulière, mais pas trop intense non plus pour Monique Ferrin.
Olivier Ferron.
Ouais, effectivement, quand on a des sciatiques. Le principal, ça va être d'essayer de faire ce qu'on peut, ce qui est confortable pour nous, et de consulter parce que le triage, en fait, vis-à-vis des différents types de sciatiques qui peuvent exister est important, et du coup, c'est important aussi d'avoir le traitement adapté justement à ce qu'on a, à ce qui se passe là.
Merci beaucoup, Monique, et continue à bouger comme ça. Hein. Merci beaucoup de nous avoir appelés.
Entre le cumul de stress et une mauvaise posture derrière l'ordinateur, Aurélien présente une douleur cervicale récurrente.
Quoi de neuf ?
Bah, toujours mes douleurs là, au niveau du cou, de l'épaule.
Okay.
C'est vraiment une douleur plutôt lancinante, qui est comme assez musculaire finalement, assez profond, et qui descend vraiment dans l'épaule.
Relâche. Ça ?
Un peu plus bas, voilà là.
Ici ?
Ouais.
Celui-là, c'est un point gâchette. C'est un endroit où tes fibres musculaires, qui normalement sont comme ça, d'accord, elles vont venir s'entrelacer et être dans un état de contraction tel que dès que tu viens mettre un point de pression, là, sur le nœud, ça crée une irradiation sur le trajet du muscle. Une cervicalgie, il faut éviter de la laisser s'installer dans le temps parce que les muscles vont augmenter en tension, se rétracter, ce qui va encore diminuer les mobilités et les patients rentrent dans un cercle vicieux où les mobilités diminuent, les douleurs augmentent et ils s'en sortent pas.
Extrait de la quotidienne sur France 5. J'aimerais donc qu'on évoque la cervicalgie chronique. On ressent donc des douleurs et de la gêne dans la zone cervicale avec des causes multifactorielles. Il faut d'abord consulter son médecin généraliste. On peut évidemment consulter un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Quel type de mouvement d'exercice préconisez-vous, Nicolas Tikhomirov ?
Alors,
à la maison, hein, comment on peut soulager cette douleur
à la maison ? Il faut travailler déjà sur sa mobilité au niveau cervical, hein, c'est-à-dire faire très simplement des petites rotations, flexions, extensions, faire bouger ses cervicales. Ensuite, on y va tout doucement. Souvent, les gens en fait se plaignent aussi de douleurs au niveau des trapèzes, vous voyez, vraiment de ce muscle qui part de la base du crâne, qui vient jusqu'à l'épaule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fausse croyance, enfin la croyance un peu populaire dirait qu'on souffre plutôt de sous-utilisation des trapèzes plutôt que de surutilisation. Les gens pensent que nos trapèzes sont tendus parce qu'on les surutilise, on a les épaules relevées comme ça, et en fait c'est plutôt l'inverse, ils sont pas assez renforcés. Donc moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est plutôt de travailler leurs trapèzes en remontant leurs épaules, en prenant par exemple une bouteille d'eau dans chaque main, et de rapprocher les épaules vers les oreilles.
De hausser les épaules.
Hausser les épaules tout doucement, comme ça, monter, et surtout de faire le mouvement de descente très lentement, en excentrique, on appelle ça, le mouvement excentrique est très important, et de redescendre pour les stimuler, ces trapèzes qui souffrent en fait, voilà, plus de sous-utilisation que de surutilisation.
Vous avez un effet terrible, notre collaboratrice Alexia Rivière fait le mouvement en même temps que Olivia Ferrand.
Oui, effectivement, quand la cervicalgie s'installe, on pourrait aussi voir la douleur comme une compétence, entre guillemets, et plus ça fait longtemps que vous avez mal, plus vous êtes devenu compétent en fait pour avoir mal, et l'enjeu ça va être de réapprendre justement à faire les mouvements en vous désensibilisant, de manière à ce que ce soit plus agréable. Ça peut être faire d'autres mouvements. Il y a des astuces qui peuvent être de détourner l'attention pendant qu'on fait un mouvement, etc. Et ça va baisser en fait la vigilance du cerveau sur la région cervicale.
Que faire en cas de torticolis, hein, ce verrouillage musculaire au niveau des cervicales hein, qui entraîne de fortes douleurs? Quel est le protocole de soins à la maison? Quels exercices préconisez-vous, Nicolas Tikhomirov?
Alors, on peut mettre quand même la zone...
Parce qu'on n'ose pas bouger quand on a un torticolis. Hein. On est un peu comme un robot. Hein.
On est un peu comme un robot. Donc, il faut déjà comprendre tous les facteurs qui ont influencé ce torticolis. Oui. Qu'est-ce qui nous a rendu sensibles? C'est pas forcément un faux mouvement. On pense qu'on a fait un faux mouvement et que ça vient de là. Pas forcément. Ça peut être beaucoup de facteurs, des facteurs émotionnels, facteurs de stress, d'anxiété. Voilà, tout ça, des fausses croyances aussi. Tous ces facteurs-là qui se surajoutent font que on va être plus sensible à la douleur et que il peut se déclencher ce type de douleur. Donc déjà, on peut laisser un petit peu de repos. Déjà, on n'est pas obligé de forcer dessus. Attention, hein, se faire accompagner par un professionnel et d'essayer de bouger tout doucement dans les capacités de mouvement qu'on peut avoir. Tout simplement, d'essayer de venir faire des petits, comme je disais tout à l'heure, des petites rotations, d'essayer de des fois détourner l'attention effectivement pour arriver à contourner cette douleur. Il y a plein de stratégies qu'on peut mettre en place. Et si on est perdu, si on ne sait pas quoi faire, la meilleure des stratégies, c'est de consulter un thérapeute.
Tiens, justement, qui consulter? Quelle est la différence entre un ostéo et un kiné? Alors, il y a beaucoup de querelles de clochers entre ces deux disciplines. Vous êtes à la fois, vous, Nicolas Tikhomirov, ostéo et kiné. Il y a peut-être un conflit entre vous, hein, je sais pas, vous-même. Mais comment choisir? Et quelle est la spécificité des deux disciplines?
Alors en fait, pour moi, c'est deux disciplines où on a le même but, mais on prend des chemins différents. D'accord. Donc il y a des spécificités dans le sens où le kiné va faire de la rééducation, va voir le patient pendant pas mal de temps, alors que sur l'ostéopathie on est quand même sur une séance on va voir une fois l'ostéo, parfois deux fois, mais on n'a pas les mêmes techniques, on n'a pas le même chemin, mais à la fin du compte souvent ça se rapproche et on est dans la même optique d'améliorer le patient.
Olivia Ferrand, quelles sont les indications de l'ostéopathie?
Alors, ça va être toutes les douleurs musculo-squelettiques, donc le torticolis, le lumbago, les sciatiques, etc., les douleurs de nerfs. Ça peut être intéressant aussi en cas de céphalée. Ça peut être indiqué aussi pour des troubles fonctionnels qui gâchent un petit peu le quotidien. Et le but, ça va être d'essayer de rechercher du confort.
Prenons un exemple concret. J'ai un lumbago, je vais voir qui? Un ostéo et un kiné. Comment vous travaillez précisément?
Vous pouvez voir les deux, en fait.
Expliquez-moi, hein. Pour mon lumbago, qu'est-ce que vous faites en tant que kiné? Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que
ostéo? Si jamais on est un lumbago, on est vraiment dans un épisode très aigu. C'est vrai que la thérapie manuelle, donc toutes ces manipulations, ont un effet à court terme sur la douleur qui peut être très intéressant. Donc, voir un ostéo, je pense que ça peut être une première approche. Mais on peut aussi prendre l'option de faire des mouvements, de se faire accompagner par son kiné, et ça marchera aussi. Donc c'est un petit peu en fonction du thérapeute qu'on a. Est-ce qu'on a un bon feeling avec son thérapeute? On a un bon ostéopathe? On a un bon kiné? Voilà, il y a pas de règle pour moi. Je sais pas pour Olivia.
Oui, c'est vrai que en fait, de par la réglementation des professions, en fait, en ostéopathie, on a l'accès direct, alors qu'en kinésithérapie, il faut passer par un médecin avant. Donc ça peut être éventuellement plus confortable d'aller directement chez l'ostéo, même si la kinésithérapie serait très indiquée.
Et plus cher aussi, parce que l'ostéo n'est hélas pas remboursé par la Sécu.
Effectivement, c'est pas remboursé, mais il y a de plus en plus de mutuelles qui prennent en charge.
Ouais, les mutuelles remboursent maintenant.
Allez, que faire en cas de tendinite, cette inflammation des tendons? Une idée reçue veut que, il faut mettre de la glace sur le tendon douloureux et pas de sport pendant un mois. Olivia Ferrand?
Alors effectivement, la question elle est plus nuancée que ça. L'inflammation elle se retrouve pas dans toutes les tendinites. Globalement aujourd'hui on va conseiller de faire ce qu'on appelle de la remise en charge progressive, donc de réapprendre au tendon justement à se contracter sans douleur, de permettre de le désensibiliser.
Nicolas Tikhomirov?
Parfait, rien à dire de plus. Olivia est parfaite là-dessus et elle a tout dit. Donc voilà, remettre en charge le tendon et surtout progressivement, graduellement, et c'est comme ça que on va le renforcer, on va le guérir, le soigner.
Olivia Ferrand, une idée reçue voudrait qu'il faille faire des étirements pour ne pas avoir de courbatures ni de mal de dos. Qu'en est-il vraiment?
Alors, dans la littérature scientifique, on n'a pas réussi à corréler ces deux facteurs. On se rend compte que les étirements, ils vont être assez intéressants pour augmenter la la tolérance à la douleur, mais pas forcément prévenir les douleurs.
Alors, que faire en cas de lombalgie chronique? Il s'agit d'une pathologie très courante. C'est une douleur localisée dans le bas du dos. Elle devient chronique quand elle s'installe depuis plus de 3 mois. Quand faut-il consulter? Et quel est le protocole de soins à la maison?
Alors, il faut consulter rapidement. Hein. Il faut déjà dire aux gens que le pronostic est très bon. Hein, que la lombalgie va...
Expliquez ce que c'est en quelques mots. La lombalgie.
La lombalgie, c'est des douleurs qui sont au niveau des lombaires, hein, tout simplement, et qui peuvent avoir des causes multiples et variées. Et à partir du moment où elle s'installe, il faut consulter assez rapidement, essayer de garder une activité physique, comme on l'a dit, et arriver.
Activité physique de transfert, hein.
De transfert, et puis, oui, de transfert, ou peut-être que l'activité physique qui fait plaisir à la personne, elle est peut-être pas douloureuse pour sa lombalgie, hein. Ça, il faut voir en fonction.
Donc, il faut continuer à marcher, aller à la piscine.
Voilà, mettre du mouvement et surtout identifier tous les facteurs qui peuvent aussi influencer cette douleur, qui peuvent sensibiliser la personne. Et souvent, quand on fait un bilan, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui influencent. Donc, c'est pas un travail qui va être juste sur le mouvement. On pourrait faire de la méditation, on pourrait faire de la relaxation, on pourrait faire beaucoup de choses. C'est un travail à plusieurs, avec souvent plusieurs thérapeutes, quoi.
Vos conseils à la maison pour aider à soigner une lombalgie chronique?
Alors, le premier, ça va être de garder le plus possible toutes les activités qu'on avait l'habitude de faire ce qui est possible, et de se dire que, en gros, là, il y a juste le dos qui est sensible, que si vous avez des sensations désagréables sur certaines activités, vous n'êtes pas en train d'empirer la situation, vous êtes juste en train de déclencher un système d'alarme qui est un peu trop fort en ce moment, mais que si c'est tolérable pour vous, c'est ok de le faire, et ça va plutôt vous aider à vous en sortir, de continuer justement et de garder tout ce que vous aviez l'habitude de faire.
Professeur Martine Duclos, importance également des mesures hygiéno-diététiques quand on souffre de douleurs physiques ou musculaires, hein.
Oui, tout à fait, parce que en fait, déjà, n'en serait-ce que quand on est déconditionné, c'est-à-dire quand on fait plus d'activité physique, on est fatigué pour le moindre effort, une petite côte, un escalier, ça nous fatigue, ça crée des douleurs dans les jambes, ça peut créer des douleurs articulaires, on a des raideurs, on devient raide dans ses membres et ça crée des douleurs. Qui n'a pas remarqué que quand on est fatigué, très fatigué, quand on est très stressé, on a mal partout. Donc c'est vrai que la douleur aussi peut être un signe de mal-être. Et effectivement, comme l'a dit Nicolas ou Olivia ou tous les deux probablement, on sait très bien que l'activité physique régulière, ça permet de prévenir l'anxiété, ça permet de prévenir la dépression. On est mieux dans sa tête, on est mieux dans son corps, on dort mieux. Donc tout ça, c'est en fait un cercle vertueux qui lutte contre le cercle vicieux du déconditionnement, du mal-être. Donc faut bien comprendre que tout ça est complètement relié. On a mal à un os. De toute façon, les articulations, les muscles. Le problème, c'est qu'on a trop tendance actuellement à identifier. Alors, une fois de plus, je caricature, mais dans le monde où on vit, on a l'impression que ce qui compte, c'est notre cerveau et nos doigts. Bon, notre cerveau pour vivre et nos doigts pour tapoter sur les écrans et les jeux vidéo. Et à part ça, les muscles, oh, bof, c'est plus 4 pieds qu'autre chose. Les articulations, ça fait mal. Bon, ma foi, le dos, ça fait mal. Donc, non, tout ça, les muscles dialoguent avec le cerveau. Il n'y a pas que le cerveau qui donne des ordres aux muscles. Les muscles donnent des ordres aussi au cerveau puisqu'ils... Pardon, ils produisent des hormones qui vont aussi informer le cerveau, mais aussi influer sur l'organisation des neurones, la multiplication des neurones, leur vascularisation, c'est-à-dire le nombre de vaisseaux qui vont arriver au niveau des neurones. Donc tout ça communique. Hein. L'organisme, c'est pas des sens interdits, c'est tout ça communique et dans tous les sens. Donc il est évident que quand on a des douleurs, c'est un symptôme. Le symptôme peut être effectivement l'endroit où on a mal, mais parfois c'est effectivement une douleur qui est pas du tout à l'endroit où on a mal, mais qui survient, qui correspond à une douleur qui est projetée. Ça veut dire qu'on a mal au genou, mais ça correspond à un problème au niveau de la hanche ou au niveau du dos, ou aussi à un mal-être général. Et donc, effectivement, on cherche une cause, mais dans tous les cas, quelle que soit la cause, on en revient toujours dans la prise en charge à une activité physique régulière, moins de temps passé assis. Et évidemment, si on a des problèmes de poids, ben les problèmes de poids, c'est essayer d'avoir une alimentation mieux équilibrée. Vous imaginez que vous ayez 10 kilos ou 15 kilos en trop, vous prenez un sac à dos de 10 kilos et puis vous imaginez que dans tous les gestes de la vie, quand vous vous levez, quand vous montez les escaliers, pour ceux qui en prennent encore, eh bien, vous portez 15 kilos en plus. Donc, d'avoir une bonne alimentation, d'avoir essayé d'avoir le plus possible un poids le plus proche de la normale et d'avoir une activité physique régulière qui permette à vos articulations de garder une certaine mobilité. Regardez, je souriais avec la dame de 83 ans parce que ce qui me faisait beaucoup sourire, j'ai pas réagi, mais j'aurais pu le faire. Elle, voilà, sa seule plainte, c'est qu'à 83 ans, elle avait une sciatique. Réfléchissez, qui autour de vous connaissez-vous qui à 83 ans ne se plaint que d'une sciatique?
C'est vrai.
Généralement, c'est les vrai. Personnes âgées se plaignent de douleurs multiples. Bon, elle, ce qui l'embêtait, c'est d'avoir une sciatique qui l'empêchait de jardiner, quoi. Donc, voilà.
11h moins le quart, et il est l'heure de retrouver la chronique. Alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Notre médecin et romancier, Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous le savez, si les frères Igor et Grishka Bogdanov, récemment décédés du Covid, n'étaient pas vaccinés, c'est parce qu'ils pensaient, tous les deux, qu'avec leur système de vie sain, ils étaient protégés des formes graves du virus. Le problème de la rhétorique de l'immunité naturelle comme protection suffisante, c'est qu'elle accorde aux organes immunitaires des capacités qu'on va dénier à d'autres organes. Je m'explique. Je dirai jamais à un de mes patients myopes, vous n'avez pas besoin de lunettes, Madame Durand, vous avez déjà des yeux. De la même manière que nous n'avons pas tous les mêmes yeux, Ali, nous n'avons pas tous le même système immunitaire. Par ailleurs, on devrait dire les systèmes immunitaires, car il y a autant de systèmes immunitaires que d'individus. L'idée que le corps est parfait, qu'il sait ce qui est bon pour lui et qu'il peut se réparer tout seul à condition de rompre avec notre mode de vie actuel est une idée pernicieuse. Parce que qui va déterminer ce qui est un bon mode de vie? Est-ce que c'est vous, Ali? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le professeur Raoult? Est-ce que c'est un référendum d'initiative citoyenne? Les discours autour du corps, comme machinerie parfaite, pouvant fonctionner parfaitement pour peu qu'on fasse un effort ou qu'on rompe avec un mode de vie inadapté, ce sont des discours dangereux, Ali. Ce sont des discours qui responsabilisent le malade et où la maladie devient une punition dont il n'appartient qu'au malade de se libérer. Ce faisant, on oublie toutes les fois où ce système immunitaire fonctionne trop peu, ce qui donne des maladies opportunistes, et toutes les fois où ce système immunitaire fonctionne trop tout court, ce qui donne des maladies auto-immunes. Je suis sûr qu'on trouverait des gens pour nous expliquer que ces pathologies en défaut ou en excès sont les résultats d'une mauvaise hygiène de vie. L'équivalent de dire à un patient couvert d'eczéma, mais c'est ta faute aussi, t'avais qu'à pas avoir de peau. Alors oui, évidemment, Ali, il vaut mieux manger 5 fruits et légumes par jour, faire des bains de mer, pratiquer une activité physique régulière plutôt que manger des frites trempées dans du fromage à raclette. Et oui, encore, l'immunité naturelle est un système d'une précision incroyable, mais ce n'est pas un système parfait, Ali. Il ne protège pas contre tous les virus, et ce n'est pas l'immunité naturelle qui a cessé de tuer un enfant sur 5 de la variole. C'est la vaccination. C'est pas l'immunité naturelle qui a aidé à lutter contre les épidémies de choléra, c'est l'hygiène. Et qu'est-ce que l'hygiène si ce n'est l'ensemble des mesures physiques visant à empêcher le pathogène d'entrer en contact avec notre corps? Vous imaginez dire à votre chirurgien « Non mais c'est bon, c'est pas la peine de vous laver les mains ou de mettre des gants, j'ai un bon système immunitaire moi docteur ». L'hygiène, c'est justement l'aveu que oui, il vaut mieux parfois compter sur de solides remparts plutôt que sur les petits soldats derrière, aussi nombreux soient-ils. Et la croyance selon laquelle le corps peut se réparer tout seul si on le veut assez fort et si on a la volonté, cette croyance-là, elle sert de marchepied à tous les charlatans du web, Ali. À tous les charlatans qui ont quelque chose à nous vendre et qui savent que le désespoir dans lequel nous jette une pandémie peut nous amener à adhérer facilement à la première promesse de guérison venue. Tout ça pour dire quoi? Ne laissons pas les gens qui nous parlent à travers les écrans faire caca dans nos têtes, Ali.
Et vous pouvez podcaster la chronique alors voilà de Baptiste Beaulieu sur l'appli France Inter et l'appli Radio France. Dans un instant, vous verrez si l'on peut vraiment se coincer un air. Réponse dans quelques minutes. En attendant, on écoute Eddy de Préto et Julien Doré, L'arme fatale.
Sur ma bouche les arguments et les baisers. Je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher. Au milieu des torrents de médiocrité.
Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle la vie. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées. La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Oh, elle est pas belle la vie.
Edith de Préto et Julien Doré interprétaient L'Arme Fatale.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h51, comment le mouvement peut aider à lutter contre les douleurs, comme une sciatique, un lumbago, un torticolis. Nos experts, ostéos, kinés, médecins du sport, répondent à vos questions au 01 45 24 7000. Olivier Ferrand, peut-on vraiment se coincer un nerf? Et si oui, comment le décoincer? C'est une idée reçue, le fait qu'on puisse se coincer un nerf.
Complètement, oui. Ouais.
Alors, c'est peu probable.
C'est peu probable pour ne
alors
pas
alors, qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on a l'impression que le nerf est coincé.
Effectivement. Il peut effectivement être pincé. C'est ce qu'on va voir sur des radiographies ou des IRM. Et dans ce cas-là, dans le compte-rendu, il y aura écrit qu'il y a un conflit. Mm-hmm. Mais se coincer un nerf au sens qu'on pourrait le décoincer avec de la thérapie manuelle, ça ne correspond pas du tout à une réalité anatomique.
Alors, autre idée reçue, est-ce que je dois renforcer mes abdominaux pour ne pas avoir mal au dos? On l'entend souvent, ça.
Alors ça, on l'a pas spécialement corrélé. On se rend compte qu'un programme de renforcement d'abdominaux, c'est pas plus efficace qu'un programme de renforcement général. Et justement, avec cette idée qu'il fallait toujours avoir les abdos contractés pour protéger le dos, en fait, ça a entraîné vraiment des comportements maladaptatifs qui peuvent être susceptibles justement d'entretenir les douleurs. Quand on a la croyance qu'il faut tout le temps se protéger, en fait.
Nicolas Tikhomirov, alias Monsieur Clavicule.
Absolument, je pense que de se mettre vraiment focus sur les abdominaux, c'est pas une bonne chose. Il faut tout renforcer, en fait. C'est vraiment le cœur se renforce. Il faut faire du cardio, des activités cardio-respiratoires. Bref, il faut pas se focaliser uniquement sur les abdos. C'est une fausse croyance. Ouais.
Olivier nous écrit: j'ai eu récemment une grosse contracture musculaire dans le dos avec des douleurs à hurler pendant une semaine, piqûres d'anti-inflammatoires et antalgique. Je n'avais fait aucun gros effort avant. Du coup, le 31 décembre, j'étais coincé à la maison sans même pouvoir m'allonger. Comment prévenir ce genre de soucis?
C'est dur à dire une fois de plus. Hein. Ça peut être des épisodes très aigus qui arrivent. Donc toujours pareil, d'essayer de rester au maximum en mouvement. Peut-être que c'est une zone de faiblesse chez lui, hein, où il sait qu'il a quelque chose qui les douleurs apparaissent souvent là. Donc essayer de prévenir, c'est peut-être renforcer au maximum cette zone et c'est comme ça qu'il pourra peut-être au mieux le prévenir.
Jacqueline nous écrit: j'ai 75 ans et depuis très longtemps, je constate que notre position à table, au lit, devant la télé ou devant l'écran de l'ordinateur est à l'origine de nombreuses douleurs lombaires et cervicales. Vous le constatez ça dans vos cabinets respectifs qu'on vient de vous voir parce que voilà, il y a des mauvaises postures qui entraînent ce type de douleurs, Olivia Ferrand?
Alors des mauvaises postures, pas forcément, mais peut-être des postures qui sont pas adaptées pour eux, ou alors peut-être que le souci vient non pas de ce qu'ils font quand ils sont assis, mais peut-être de ce qu'ils font pas quand ils sont pas assis au travail.
Nicolas Tikhomirov.
Exactement. Donc essayer de toujours bouger et de trouver les bonnes stratégies. Il faut vraiment remettre le mouvement dans la notion de plaisir. Donc vraiment il faut que ça leur fasse plaisir, trouver la bonne activité et ça évitera souvent d'avoir ces douleurs là qui apparaissent.
Et je le redis, investir dans une activité sportive ou physique de transfert si on souffre dans une zone particulière.
Hein. Exactement.
Voilà, ça c'est très important. Comment bien vivre, mieux vivre avec une arthrose du genou ou de la hanche? Quel protocole de soins à la maison, Nicolas Tikhomirov?
Alors pour l'arthrose, quand on est sur des... Déjà, on sait que l'arthrose n'est pas forcément corrélée avec des douleurs. Ça, c'est le premier des points à savoir. Hein. Il y a beaucoup d'arthroses qui ne sont pas forcément douloureuses. Donc, il faut juste s'enlever cette fausse croyance de se dire « je vais bouger et je vais encore plus user mon cartilage ». Ça, on est vraiment sur une fausse croyance. Donc, d'essayer, au contraire, de trouver les bonnes stratégies pour bouger, de ne pas mettre trop de contraintes non plus, hein, pour pas irriter son genou, par exemple, mais bouger dans la limite, voilà, au quotidien, d'essayer de marcher, d'essayer de faire de l'aquagym, toutes les activités qui peuvent mettre en mouvement sans dépasser cette capacité d'adaptation maximale.
Nina nous demande si s'étirer régulièrement prévient des douleurs comme un lumbago ou une sciatique. Est-ce qu'il faut s'étirer tout au long de la journée, enfin régulièrement dans la journée ?
Alors, si ça vous fait du bien quand vous avez de la douleur, pourquoi pas? Maintenant, on n'arrive pas à mettre en lien que les étirements vont permettre de prévenir en termes de prévention. C'est vrai que c'est assez compliqué de recommander quelque chose parce qu'on n'a pas énormément de données là-dessus au final.
Nicolas Tikhomirov.
Absolument, je pense que les étirements, bon voilà, on manque de données. Par contre, toujours le renforcement musculaire, là on sait que ça peut être vraiment intéressant.
Allez, je vous propose d'écouter une note vocale déposée par Patricia.
Bonjour, je m'appelle Patricia, j'ai 44 ans et ça fait 13 ans que j'ai mal au dos, nuit et jour. Et maintenant qu'elles se sont étendues des lombaires au cervical, j'ai un petit peu adapté ma vie. J'ai commencé à remplacer la marche par le vélo, car c'est la seule position antalgique pour moi. Et après être passée par plein de médecines douces différentes, je me suis mise au yoga depuis peu, en espérant que les étirements soulagent un petit peu toutes mes tensions musculaires. J'espère être sur la bonne voie.
Nicolas Tikhomirov.
Oui, ben elle a trouvé du coup une activité de transfert qui lui va bien. Hein. Elle fait du vélo, elle est bien, donc ça c'est une bonne chose. Après, je pense que ça nécessiterait un bilan un peu plus complet pour voir toutes les interactions qu'ils peuvent avoir dans sa vie et du coup sensibiliser sa douleur.
Olivia Ferrand.
Effectivement, c'est déjà super les adaptations qu'elle a faites. Et oui, pour le coup, sur les douleurs persistantes, ce serait intéressant d'avoir une consultation et un vrai bilan personnalisé pour le coup.
Un mot de conclusion à l'issue de cette émission, Nicolas Tikhomirov.
Voilà, ben je pense qu'on a beaucoup de fausses croyances autour des douleurs, de la douleur chronique, de l'arthrose, et essayer de remettre nos vies en mouvement et de trouver la bonne façon de bouger. Si on n'y arrive pas, de se faire accompagner par des thérapeutes, par des professionnels de santé, c'est vraiment le but à atteindre pour tous.
Professeur Duclos, en quelques mots.
Oui, effectivement, essayer de trouver les mouvements qui vont avoir un effet sur la douleur, un effet bienfaisant sur la douleur, et en n'hésitant pas à se faire accompagner de professionnels.
Et Gilles nous écrit « Je suis éducateur sportif spécialisé dans le sport santé. Je conseille vivement aux gens de venir dans leurs associations de villes et villages spécialisées dans le sport santé. Ils prendront du plaisir et ils s'éduqueront sur les gestes du quotidien pour ménager leurs muscles et améliorer leur posture. » Mot de conclusion, Olivia Ferrand.
Eh bien, je vous dirais que vous n'êtes pas en sucre et que votre corps, il est fort et il est résilient. Il faut lui faire confiance et il est capable de très belles choses.
Merci beaucoup, professeur Martine Duclos, d'avoir participé à cette émission. Merci Olivia Ferrand, tiens-toi droit, 50 idées reçues enfin démystifiées, c'est publié chez Flammarion. Merci Nicolas Tikhomirov alias Merci. Monsieur Clavicule, bien dans votre corps, soulagez vos douleurs par le mouvement, c'est publié chez Albin Michel et vos deux livres sont absolument complémentaires et très bien faits avec des photos explicatives. C'est vraiment très bien. Demain, comment être moins dur avec soi-même? Comment devenir davantage indulgent avec soi? Tout un programme. Dans un instant, Nagui et la bande originale.